France Info.
En compagnie ce soir d'Alban Micosi, France Télévisions, Paul Barcelone de France Info et Elisabeth Pinault de l'agence Reuters. On en vient donc à cette tribune publiée dans 4 quotidiens, dont Le Monde, 3 chefs d'État, le français Macron, l'égyptien Al-Sissi et le jordanien Abdallah II, qui signent donc une tribune pour appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ils expliquent aussi qu'une offensive à Rafah ne ferait qu'accroître les pertes humaines et les souffrances, aggraver le risque et les conséquences d'un déplacement forcé massif de la population de Gaza et entraîner une menace d'escalade dans la région. Tout cela en réclamant, par ailleurs, en même temps, la libération de tous les otages. On va entendre 2 réactions avant d'en parler. D'abord, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français.
Enfin, je dirais, c'est écrit noir sur blanc avec 2 chefs d'État concernés. Ça intervient 6 mois après cette intervention. Tout ça, c'est bien mou de la part de la France, qui peut être un peu leader au sein de l'Union européenne. Si la France a une chose à faire, une chose, c'est de reconnaître l'État de Palestine, parce que c'est un acte politique fort qui aurait une résonance sur la scène internationale.
Voilà, Fabien Roussel qui, dans la foulée, demande aussi des sanctions économiques. 2e réaction, l'avocat Johan Soufi, qui a été responsable du département juridique de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à Gaza jusqu'en 2023. Il est plutôt partagé, écoutez.
Sur le fond, cette tribune est bienvenue parce qu'elle constate que la guerre est une impasse et que seules des mesures diplomatiques et humanitaires sont aujourd'hui en mesure d'apporter une solution. Mais sur la forme, effectivement, on peut s'interroger sur le fait que les présidents de 3 États, dont une puissance nucléaire et un membre permanent du Conseil de sécurité pour la France, la principale puissance militaire en Afrique pour l'Égypte, eh bien, se retrouvent si impuissants qu'ils en sont réduits à écrire une tribune dans un journal comme n'importe quel membre de la société civile.
Voilà, Johan Soufi sur France Info. Alban Micosi, vous êtes d'accord, ils sont tellement impuissants qu'ils n'ont plus que la plume et le stylo pour se battre.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit par Johan Soufi. Un peu plus loin, il dit qu'il faudrait des vraies sanctions contre Israël, comme elles existent contre la Russie, et notamment un embargo sur les armes. Alors, premièrement, rappelons que l'embargo sur les armes contre la Russie, il n'existe pas, puisque que ce soit l'Iran ou la Corée du Nord, il y a une livraison d'armes régulière. Deuxièmement, qu'un certain nombre de pays ont pris la responsabilité de ne plus vendre d'armes à Israël et que pour l'instant, ça n'a pas mis fin du tout à l'opération. L'intérêt de la tribune, à mon avis, il est double. D'abord, il rappelle qu'il y a une résolution qui a été votée la semaine dernière par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'était pas il y a 6 mois, c'était la semaine dernière, exigeant l'arrêt des combats.
Dont on n'a pas l'impression qu'elle ait produit un effet, enfin un coup de tonnerre en Israël.
Alors, oui, mais non.
Même pas appliqué, en fait.
Non, mais oui. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a quand même des lignes qui sont en train de bouger. Alors, la première ligne qui est en train de bouger, c'est l'aide humanitaire. Vous savez, l'aide humanitaire, Bérangère, jusqu'alors, c'était une moyenne de 10 camions par jour. Hier, il en est passé 481. Alors, évidemment,
il en faudrait...
ça ne résout pas. Il en faudrait 500 par jour et pendant 6 mois. Donc, évidemment, ça ne résout pas en une seule journée la situation épouvantable dans laquelle sont les habitants de Gaza. Mais c'est le signe que quelque chose est en train de bouger. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font, les 3 chefs d'État? Ils font un peu de politique. À qui ils parlent? Pas aux lecteurs du Monde, pas à nous. Ils sont en train de parler au gouvernement américain. Évidemment. En leur disant une bonne fois pour toutes, Joe Biden, assumez vos responsabilités. Si peut faire bouger Netanyahou, c'est vous. Donc il y a un lecteur, c'est Joe Biden.
Juste rebondis sur les 450 camions. Ok, très bien. C'est aussi ces derniers jours la mort de ces 7 humanitaires. Je veux dire, quand on dit qu'il y a eu un électrochoc, la pression a changé côté américain, etc. C'est quand même un peu plus compliqué.
En tout cas, il y a l'ouverture de 3 points de passage. Il y a quelques signes que Israël prend en compte la situation humanitaire désastreuse dans laquelle elle a placé ce territoire.
Bon, tribune intéressante, en tout cas pour vous.
Oui.
Paul Barcelone.
Oui, je suis d'accord avec ce que disait Alban sur la résolution qui doit diplomatiquement mettre la pression, et cette tribune est là aussi pour ça, alors que se joue en ce moment le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est extrêmement important pour la suite, etc. Donc, d'accord sur le point de l'impuissance. Ensuite, quel est le contexte de cette tribune? C'est la fin ce soir du Ramadan. On voit que la situation, entre guillemets, n'avance pas, et ce sont d'ailleurs un peu les éléments de langage des diplomates diplomates autour d'Emmanuel Macron qui disent la situation est enlisée, on est obligé à un moment d'écrire, de mettre la pression, et les mots ont leur importance. Cessez le feu immédiat et permanent, c'est écrit noir sur blanc, avec des partenaires arabes dans la région, l'Égypte, la Jordanie, qui sont un peu des pôles de stabilité, si j'ose dire, dans la région. On sait que, notamment Al-Sisi, c'est un partenaire d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron le considère beaucoup, le chef d'État égyptien. Il le voit en marge de tous les sommets internationaux. C'est le cas aussi pour Abdallah, qui est régulièrement venu à Paris, le chef d'État jordanien. Donc, il y a la volonté pour Emmanuel Macron, aussi sur la forme, de s'afficher avec ces partenaires-là. Et c'est pas un détail. L'Égypte a une frontière avec Gaza.
Quand on parle de Rafah, ça les concerne.
C'est un négociateur depuis le début. Il y a la question de la libération des otages. L'Égypte avait signé la paix dès 1979 avec Israël. C'est un partenaire extrêmement important dans la région. Donc, cette tribune-là, ça n'est pas qu'un aveu d'impuissance.
Elisabeth Pinault.
C'est aussi une façon de prendre les opinions à témoin de cette pression faite sur Joe Biden. La tribune a été publiée donc dans Le Monde, dans le Washington Post et dans deux journaux arabophones. Donc, c'est quand même important, c'est quand même mondial. Et puis, en effet, vous l'avez dit, Emmanuel Macron veut s'afficher avec ses deux dirigeants, notamment le jordanien. Il est allé en Jordanie. La France a procédé à des largages humanitaires sur Gaza avec la Jordanie. Donc, oui, c'est une pression de plus. Et évidemment, les messages sont toujours les mêmes, avec évidemment un mot pesé, un cessez-le-feu permanent, immédiat et permanent, une solution à deux États, une aide humanitaire massive. Et c'est des messages qui se répète, mais qu'il faut répéter pour que la pression continue.
C'est une initiative de Paris, on sait ça.
Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est
une initiative concertée.
Oui.
Juste un mot pour dire.
De toute façon, ils se parlent régulièrement.
Il y a des choses très importantes au Caire actuellement, puisque il y a cette négociation dont on va parler, j'imagine.
Exactement. Parfait. Juste après le point sur l'info, vous nous direz peut-être aussi, Alban, pourquoi la France n'a jamais reconnu l'État de Palestine en ces termes-là, en tout cas, alors que une centaine de pays l'ont fait.
20h, 21h. France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Paul Barcelone du service politique de France Info, Elisabeth Pinault, correspondante à l'Élysée à Matignon pour l'agence Reuters, et Alban Micosi, spécialiste de politique internationale, grand reporter à France Télévisions. Alors on parle de cette tribune et on en venait juste avant la pause, Alban Micosi, à ces négociations au Caire. On l'entendait dans le point sur l'info. Le Hamas dit que le compte n'y est pas. La Maison Blanche juge ce soir ses déclarations pas très encourageantes.
En fait, il y a un vrai point de blocage.
Tous les soirs, en fait, j'ai l'impression qu'à cette heure-ci, on en est à peu près
au décalage horaire. Il y a un vrai point de blocage que pour l'instant, les négociateurs ne savent pas dépasser, qui est la libération des otages inconditionnels contre la libération de prisonniers politiques palestiniens. Le Hamas estime que les Israéliens, en fait, vont attendre que les otages soient libérés pour reprendre l'action militaire. Et qu'en réalité, une fois que le Hamas n'aura plus d'otages, la répression israélienne reprendra et de manière encore plus importante. Et donc, pour le Hamas, c'est une carte particulièrement importante. Le Hamas ne veut pas s'engager si Israël ne s'engage pas de manière pérenne, définitive et durable sur l'arrêt des bombardements. Là, on n'en est pas là, puisque Benjamin Netanyahou aujourd'hui même a dit qu'il connaissait la date de l'intervention à Rafah. Donc vous voyez très clairement que le monde essaie de rapprocher deux parties qui, le Hamas comme le gouvernement de Benjamin Netanyahou, sont les deux parties qui freinent et qui sont les plus bellicistes.
Qui n'ont pas l'un et l'autre, effectivement, intérêt à
ce qui n'ont pas intérêt. Pour être clair, Benjamin Netanyahou, s'il y avait des élections aujourd'hui, il n'est pas sûr de les gagner du tout. Or, tant qu'il y a la guerre, il n'y a pas d'élection.
Où est la clé ? Qui a la clé ?
C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'effectivement, les deux seuls qui peuvent arrêter le conflit aujourd'hui, c'est le gouvernement israélien et le Hamas. Donc, il faut peser sur le gouvernement israélien et sur le Hamas en même temps pour obtenir de l'un et de l'autre les deux clés qui libéreraient la possibilité d'un cessez-le-feu durable, voire définitif.
C'est ce qu'essayent de faire les trois chefs d'État dans cette tribune. Et je reviens à ce qu'on disait juste avant la pause info sur cessez-le-feu immédiat et permanent qui dépasse cette trêve de Ramadan. C'est là si j'ose dire, Emmanuel Macron, il reprend son bâton de pèlerin. Il a été moqué, notamment au départ, sur ses positions sur ce conflit, qui avait évidemment fait couler beaucoup d'encre, etc. Mais la version de l'Élysée est plutôt de dire que lui a tenu une position constante, essayant de ménager, et comme le rappelait Alban, à la fois de peser sur le Hamas et aussi sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est une situation qui est extrêmement difficile et presque inextricable.
L'Élysée parle encore à Benjamin Netanyahou, Elisabeth Pinault.
Je n'ai pas souvenir d'échanges.
Ça s'adresse aux autres, hein, c'est passé.
Je n'ai pas aussi.
Si, mais il lui a beaucoup
récemment,
parlé.
Non, mais je dis récemment.
Enfin, d'échanges récents, bien sûr, il lui a beaucoup parlé. D'échanges récents, je n'ai pas souvenir.
Alban Mikosi.
C'est très compliqué parce que le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui s'appuie sur sa droite, regarde avec intérêt les élections américaines et l'éventuel soutien de Donald Trump. C'est-à-dire qu'en vérité, les Israéliens jouent déjà le pourrissement de la situation jusqu'à l'élection potentielle de Donald Trump.
Et ça, en cédant 6 mois, hein, un peu plus.
Et c'est tenu qu'au mois de novembre.
Juste la question que je posais juste avant la pause. Pourquoi la France n'a jamais reconnu l'État de Palestine en ces termes-là? Ça remonte à 88, cette proclamation par les Palestiniens. 94 pays l'avaient tout de suite validé, puis il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Aujourd'hui, il y a 9 États membres de l'Union européenne, par exemple, sur 27. Puis alors, il y a des appellations différentes.
On va dire que la communauté internationale, je vais dire, les grands États traditionnels occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, ont été les moins allants dans cette question. C'est d'ailleurs étonnant parce qu'en décembre 2014, la question s'est posée après un vote de l'Assemblée nationale demandant au gouvernement français de se prononcer sur cette question. Et c'était le président François Hollande qui était à l'époque au pouvoir. Et ils ont estimé à l'époque que tant que la question des frontières n'était pas clairement réglée, quand que la question de l'exécutif palestinien au pouvoir n'était pas clairement réglée, cette question de l'État n'était pas prioritaire. Il fallait d'abord avancer sur ces deux points avant de reconnaître un État clairement inscrit dans un espace géographique avec un espace politique. Se pose en plus un deuxième problème. Qu'est-ce qu'on reconnaît? L'État palestinien, est-ce qu'on reconnaît à l'intérieur la bande de Gaza? Est-ce qu'on estime que le pouvoir du Hamas, vous savez qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2006, est-ce que le Hamas est un partenaire d'exécutif régulièrement élu? Ça, là-dessus, il y a encore des freins dans un certain nombre de pays occidentaux.
Mais la centaine de pays qui ont reconnu l'État palestinien se pose la question dans les mêmes termes?
Alors non, un certain nombre de pays. Les premiers sont les pays africains et puis les pays globalement qu'on appelle aujourd'hui des BRICS, qui sont allés très largement dans la reconnaissance de l'État palestinien. Ça a été beaucoup plus compliqué chez les Occidentaux. Curieusement, c'est le Vatican, le premier pays occidental, qui reconnaît l'État de Palestine. Ensuite, un certain nombre de pays européens vont suivre, avec notamment d'abord l'Europe centrale. Et
l'ancien bloc soviétique
de l'ancien bloc soviétique. Même si la Russie n'a pas toujours été claire sur cette question. Vous voyez, en fait, très clairement, il y a eu des blocages, un habillage juridique de blocage politique.
Et la question se pose aussi parce que quand on parle de cette solution à deux États très régulièrement,
il en faut deux, la France, d'ailleurs.
C'est-à-dire que très clairement, la France
croit en
une solution à deux États. Reste maintenant à définir exactement ce qu'on appelle l'État de Palestine.
Ça, c'est extrêmement difficile parce que c'est aussi une question politique dans le pays. Mais c'est effectivement important de rappeler que la France défend historiquement cette solution à deux États. Et Emmanuel Macron n'a pas manqué de le rappeler systématiquement. Chacune de ses interventions sur ce sujet, Israël-Gaza, dès le 7 octobre, que la solution passait par une solution à deux États, si j'ose dire. Et ça fait partie du package de solutions politiques qu'il essaye de pousser. Et là encore, ce sont des termes qu'on retrouve dans la tribune d'hier.
Il y a eu d'autres tribunes, d'autres prises de parole à travers le monde, outre les résolutions, la résolution de l'ONU, Alban Mikosi, de ce type-là?
Alors, de ce type, clairement, multinational, j'allais dire, non. À ma connaissance, c'est effectivement la première intervention de 3 États qui ont un rôle important,
complémentaire,
dans le dispositif de paix. Après, il y a des interventions par pays par pays, et même Joe Biden aux États-Unis a publié un certain nombre de communiqués disant clairement, très clairement, quelle était la position de la Maison-Blanche.
Évidemment, c'est la voix de Joe Biden qu'on attend en priorité. C'est lui qui a la clé pour Israël. Et Emmanuel Macron Macron a été l'un des premiers à taper du poing sur la table face à la souffrance des Palestiniens à Gaza.
Ça a été mais les choses sont peut-être en train de bouger. Aujourd'hui même, le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis fin à l'accord. Parce qu'assez curieusement, il y avait encore un accord militaire entre Israël et la Turquie. C'est-à-dire que jusqu'à là, la Russie fournissait, c'est encore le cas en janvier et février, des armes à Israël. Mm-hmm. Ça paraît incroyable, mais c'était le cas. Et là, Recep Tayyip Erdogan, il met fin officiellement aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de lignes. Encore une fois, c'est pas les plus évidentes, mais un certain nombre de lignes.
Ça représente quelle part de l'armement israélien?
Alors, vous savez, l'armement israélien, les exportations sont à 85% américaines. Ouais, mais l'Allemagne est le numéro 2 et la Turquie est le numéro 3.
Et symboliquement, c'est évidemment...
C'est supérieur, par exemple, à la France.